Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Pas de budget sous le sapin. Cette année, le gouvernement prépare une loi spéciale pour assurer la continuité des services de l'État en début d'année prochaine. Elle sera présentée ce soir en Conseil des ministres. La France aura bientôt un nouveau porte-avions. Enfin bientôt, en 2038. On va vous expliquer pourquoi le temps de construire ce porte-avions au chantier de Saint-Nazaire. Et puis les pieds dans l'eau, près de la Méditerranée, où le cours d'eau, l'Hérault, a débordé hier soir.
Mais d'abord, il y a un plat qui cartonne cette année pour les fêtes, c'est la raclette.
Oui, de plus en plus de Français, vous allez en avoir la preuve, choisissent ce plat de montagne pour le 24 ou pour le 25, à la place du saumon, du foie gras, des huîtres, du chapon. Pourquoi ? Parce que c'est moins cher, ça prend moins de temps, c'est plus sympa aussi, nous dit Marius Roland, pour RMC au marché couvert de Drancy, en région parisienne.
François et Michel vont fêter Noël en petit comité. Pas de chichi pour le couple de retraités et leur famille. Sur la table, ça sera raclette car c'est pratique et chaleureux.
Il n'y a personne à la cuisine et tout le monde est autour de la table.
Ça permet de prendre l'apéro tranquillement, de ne pas stresser sur un plat qui chauffe parce qu'on ne sera pas là pour surveiller la cuisson.
La raclette connaît aussi un succès car elle se diversifie. Aujourd'hui, il existe une ribambelle de saveurs pour en faire un vrai plat festif. Alexandre est fromager dans le marché.
Cette année, on a une tendance sur les raclettes. On a différents choix comme la nature, on a de la truffe, on a de l'ail des ours, on a le poivre.
D'après le gérant, ses commandes de raclette ont augmenté de 50% par rapport à Noël dernier. Mais si ce plat a bien un atout, c'est qu'il est peu coûteux et ça fait toute la différence pour Joss. Il est charcutier traiteur dans le stand voisin.
Il y a le côté convivial à table et après, oui, il y a le niveau budget aussi pour les gens qui n'ont pas trop les moyens. On peut s'en sortir pour aller 50-60 euros avec le fromage et la charcuterie pour 8-10 personnes, on va dire.
Selon lui, la raclette pourrait bien s'imposer comme le plat de référence de Noël au vu des prix du saumon ou du foie gras qu'il voit grimper depuis son étal.
Et alors, en cette semaine de Noël, synonyme généralement de cadeaux, ne soyez pas étonnés si vous ne recevez pas l'argent d'un virement bancaire tout de suite sur votre compte en banque. Pourquoi ? Parce qu'ils seront bloqués du 25 au 28 décembre. Grégoire Morelli, vous allez nous expliquer pour RMC, c'est un système européen en fait et c'est le temps de le mettre à jour.
Pendant ces 4 jours de fermeture, il est bien possible de faire un virement, mais l'argent n'est pas disponible immédiatement, seulement à la réouverture du service à partir du 29 décembre. C'est le cas pour toute opération interbancaire. Maya Attig, directrice générale de la Fédération bancaire française.
Si vous faites un virement classique vers une banque autre que la vôtre, alors ça devra attendre que le système de la Banque Centrale Européenne se rouvre. Et donc, vous allez faire une opération, par exemple, le 24 décembre après-midi, eh bien, ce sera livré le lundi matin.
En revanche, pas de changement entre les comptes d'une même banque. Pareil, si vous faites un virement instantané, la Banque de France conseille tout de même d'anticiper avant les fêtes, salaire, loyer, facture. Occupez-vous-en dès ce début de semaine si besoin.
Oui, et ben, ce début de semaine, le gouvernement lui anticipe une fin d'année sans accord pour le budget général, le budget de l'État. C'est mal engagé. Depuis vendredi, l'échec de la commission députés-sénateurs. Une loi spéciale sera donc présentée ce soir en Conseil des ministres. Des concertations avec les chefs de parti ont d'ailleurs déjà démarré à Matignon. Ça va se poursuivre à tous début de semaine. Loi spéciale qui va permettre d'assurer la continuité en fait des services de l'État en début d'année prochaine, à Lucille Pascani.
Cette loi spéciale permettra au gouvernement d'assumer les dépenses courantes. Sylvain Bersinger est économiste.
S'il n'y avait pas cette loi spéciale, le risque, c'est tout simplement que l'État cesse de fonctionner au 1er janvier, que les fonctionnaires ne soient plus payés, que les services publics ne fonctionnent plus, que les impôts soient plus collectés. Donc pour éviter cette rupture de l'État, on prolonge le budget un petit peu tel quel. En fait, l'État va continuer à fonctionner selon les modalités de 2025, mais il ne pourra pas y avoir de nouvelle politique économique qui pourra être menée.
Un exemple concret, le dispositif MaPrimeRénov qui sera à nouveau suspendu dès le 1er janvier. Une mauvaise nouvelle selon Audrey Zermati, directrice stratégie Défi qui accompagne les ménages dans leurs travaux de rénovation.
Aujourd'hui, on se retrouve encore avec des incertitudes sur ces travaux qui peinent à la fois les particuliers pour leur incitation à réaliser les travaux, mais aussi évidemment tout le secteur qui se retrouve dans une situation très compliquée, pouvoir engager les gens dans les travaux de rénovation énergétique qui restent extrêmement importants pour les économies d'énergie des Français.
Elle craint aussi qu'à la potentielle réouverture du guichet MaPrimeRénov, la demande ne se heurte à un goulot d'étranglement. 80 000 dossiers sont toujours en attente de validation.
Et 10 milliards d'euros, ça c'est le coût estimé du nouveau porte-avions destiné à remplacer le Charles de Gaulle. L'annonce a été faite hier par Emmanuel Macron depuis la base militaire française d'Abu Dhabi. À l'heure des prédateurs, nous devons être forts pour être craints. Voilà ce qu'a dit le président en précisant que la construction reviendrait au chantier de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, sollicitant 800 entreprises, dont 80% de PME. On se félicite, tiens, ce matin.
Bah, c'est plutôt bien pour le secteur, hein. Ça met du boulot, donc c'est plutôt bien d'avoir ça chez nous. C'est de la fierté quand même pour Saint-Nazaire, pour les alentours, hein. Ça va être connu partout, donc c'est plutôt bien.
Ça va créer énormément d'emplois, il va falloir trouver les gens et les loger. Je suis fière que Saint-Nazaire reste un port de construction et bientôt pour futurs porte-avions.
On peut être fier de construire des bateaux de ce genre. Ça va être très intéressant pour Saint-Nazaire. Et puis ça fait venir aussi des jeunes qui apprennent le métier.
Alors Emmanuel Macron est attendu sans doute en février, hein, sur les chantiers de Saint-Nazaire où sera donc construit ce nouveau porte-avions avec une mise en service attendue pour 2038. 13 ans quand même, hein, de chantier. Romain Houg, expliquez-nous pourquoi ça prend autant de temps.
Mais d'abord, il faut imaginer à quel point ce chantier est colossal. On parle de construire un navire de guerre de 310 mètres sur 85, capable d'accueillir tout type d'aéronefs, de faire décoller et atterrir des avions en même temps, le tout équipé de technologies militaires de pointe. Tout cela prend évidemment du temps à concevoir. Et puis, il y a la propulsion nucléaire. Des réacteurs construits spécialement pour le navire. Ce sont des prototypes, le genre que l'on construit une à deux fois par siècle. Les chaufferies doivent répondre à des normes très strictes et comme pour une centrale nucléaire, les procédures ne peuvent pas être accélérées. Enfin, ce qui prend du temps, ce sont les essais préalables à la mise en service du porte-avions. Il faut tester par exemple sa résistance au choc ainsi que de nombreux autres paramètres. Bref, beaucoup de choses qui expliquent que ce nouveau porte-avions ne naviguera pas avant 2038. Dans 13 ans, c'est toujours un an de moins que pour le Charles de Gaulle. La construction avait alors duré 14 ans.
À 8h07 sur RMC, sachez que les agriculteurs sont toujours mobilisés dans le sud-ouest, hein, mais bien moins nombreux que la semaine dernière. Une vingtaine d'actions recensées dans la soirée, blocage levé sur la Nationale 20 entre Toulouse et Lendor. On en a parlé la semaine dernière avec la station d'Axe-les-Thermes qui se disait coupée du monde en raison de ces blocages pour s'opposer toujours à la stratégie de l'État contre la maladie bovine. Météo France alerte ce matin sur des conditions de circulation peut-être difficiles dans le Tarn et l'Aveyron avec la neige et le verglas annoncés aujourd'hui. Il y a 6 départements du Sud, hein, qui sont en alerte pour neige, verglas, cru et ou inondation. C'est le cas par exemple de l'Hérault où il pleut fortement là depuis ce week-end. Épisode Cévenol, ça déborde d'ailleurs depuis hier soir à La Roque, commune dans le nord de ce département. C'est ce que nous dit cet habitant.
C'était assez impressionnant, oui. Bon, bah, après, les gens d'ici sont habitués. Moi qui suis pas d'ici, ça m'a quand même... Ça fait 3 ans que j'habite ici, et voir ce taux monter, et puis la quantité d'eau que ça peut faire, c'est vraiment impressionnant. Et puis on peut rien faire contre les éléments, hein. Donc on peut que patienter, constater les dégâts après, comme ce matin.
Et alors c'est l'événement foot de cette fin d'année, vous le savez, la Coupe d'Afrique des Nations sur RMC, elle a commencé comme prévu hier sur RMC Radio Officielle par une victoire du pays hôte, le Maroc, 2-0, c'était contre les Comores, Nicolas Pelletier.
Oui, les supporters marocains ont stressé pendant 55 longues minutes avant l'explosion de joie. Certains fans ont patienté pendant 10 heures devant l'entrée de l'enceinte à Rabat, mais l'attente en valait la peine. Un stade en folie, des écharpes tendues et des supporters rouges de bonheur après la victoire.
Ça fait toujours plaisir de bien commencer la compétition. Ça a donné du baume au moral de tous les supporters qui sont là malgré la pluie.
Franchement, l'équipe était top, ils étaient soudés comme d'habitude. Que du bonheur pour la suite et Inch'Allah qu'on soulève le titre. Hein. Franchement, je le souhaite du fond du cœur. Hein.
Dans une ambiance incandescente, le défenseur marocain Naïef Aguerd reste bluffé.
Oh, incroyable, je ne suis pas surpris, je suis né ici. Donc je savais que ça fait des mois, je dirais même ça fait 2 ans que le peuple marocain attend cette compétition. Je ne suis pas surpris, je savais qu'ils vont être là pour nous soutenir sous la pluie. Franchement, rien à dire.
Une entrée en lice réussie, même si rien n'a été facile face aux Comores. Les Marocains espèrent monter en puissance au fil de cette CAN.
3 matchs aujourd'hui, la fiche de la soirée sera Égypte-Zimbabwe. Et puis on connaît déjà le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France. Le week-end du 10 janvier, il y aura une fête des voisins, Paris-SG, Paris-FC, un duel Lille-Lyon. Et alors il reste 2 petits poussets dans la compétition, des clubs de 6e division, Montreuil qui jouera contre Amiens et Bayeux qui a tiré le gros lot et qui affrontera Marseille.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h10 sur RMC, l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, la rémunération du plan d'épargne logement va augmenter en début d'année.
Mais oui, c'est le retour du bon vieux plan d'épargne logement. Alors attention, hein, surtout si ça vous démange, ne signez pas avant le 1er janvier. On va rappeler que ce plan d'épargne logement, on l'avait un peu oublié ces dernières années parce qu'il proposait d'abord des niveaux de rémunération assez peu attrayants. Mais il faut rappeler que c'est tout de même le deuxième produit d'épargne réglementé le plus populaire après le livret A. Pour ouvrir un PEL, il faut verser 225 euros à l'ouverture, au moins 540 euros par an. Le plafond, c'est 61 200 euros. Et le taux auquel vous rapporte cet argent, c'est ça qui est spécifique au plan d'épargne logement, n'évolue pas au cours du temps. Il est fixé le jour de la signature. C'est pour ça qu'on vous dit, attendez le 1er janvier, parce que le 1er janvier, le taux de la rémunération passe à 2%, c'était 1,75 jusqu'à maintenant.
Le plan d'épargne logement, c'est beaucoup plus qu'un livret d'épargne. Hein.
Oui, effectivement, il permet aussi d'obtenir des crédits immobiliers à taux avantageux. Et l'autre raison pour laquelle on avait délaissé finalement ce plan d'épargne logement, c'est que 1, il rapportait pas beaucoup, et que 2, il permettait pas d'obtenir des taux très concurrentiels ces dernières années. Quand les banques vous prêtaient à 1% ou 2%, bah, votre petit plan d'épargne logement, il n'était pas en mesure de rivaliser avec ces taux généreux offerts par les banques. Là, l'idée, on va la rappeler, c'est que vous accumulez des intérêts au fil des années et que plus vous accumulez d'intérêts, plus vous obtenez un taux bas, taux qu'on peut faire valoir au bout de 4 ans après avoir souscrit son plan d'épargne logement. Donc, effectivement, l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, le PEL qui fonctionne, par exemple, ceux qui ont été ouverts entre 2019 et 2022, que vous pouvez déclencher, c'est 2,25%. Le taux d'emprunt immobilier, alors que les banques en moyenne aujourd'hui sont autour de 3%. Alors évidemment, le livret d'épargne logement.
On va y arriver.
Que vous allez ouvrir maintenant, il sera pas activable avant 2029. Mais après tout, est-ce que les taux d'intérêt seront beaucoup plus bas en 2029 sur les marchés? C'est pas sûr.
Alors attention quand même à la date de péremption du PEL.
Oui, parce qu'à partir de mars 2026, changement de réglementation qui limite la durée de vie de ces placements à 15 ans. Ça veut dire que l'argent qui se trouve sur les PEL sera automatiquement versé sur un livret d'épargne classique au-delà des 15 ans. Ça concerne les PEL 2011. Les PEL antérieurs à 2011, eh bien rien ne change. Ils gardent une durée illimitée. Ceux qui seront en post 2011, eh ben on les fermera année après année au bout de 15 ans.
Donc il faudra être un tout petit peu vigilant.
Un tout petit peu vigilant, laissez pas perdre tout.
Voilà, laissez pas passer la chance. Merci Emmanuel Lechypre, RMC. Il est 8h13. On part au 32-16 et vous êtes nombreux finalement à réagir à MaPrimeRénov', pas tant pour dire qu'il faut la remettre que pour dire que finalement elle n'a plus lieu d'être. C'est votre cas Julien. Bonjour Julien.
Bonjour à tous.
Comment ça va Julien, infirmier à Montpellier, vous avez
sous
entendu
la pluie,
sous la pluie hein. Ouais, il pleut beaucoup dans le sud hein. Vous vous y attendiez peut-être pas à ce qu'il pleuve à ce point quand même.
Ouais, mais pour une fois qu'on a un vrai épisode Cévenol, parce que chaque fois il nous met des alertes pour pratiquement rien, là c'est ça fait 3 jours qu'il pleut bien.
Qui pleut. Bon, cela dit, alors du côté MaPrimeRénov', vous avez entendu tout à l'heure, alors le bâtiment se plaint, estime que ESSE n'y a plus rien comprendre, et effectivement à partir du 1er janvier, elle est à nouveau suspendue. Mais en effet, vous êtes nombreux à dire, mais au fond, est-ce qu'on peut continuer à avoir un secteur qui vit quand même sous subvention?
Mais c'est ça, mais le problème en France, c'est que la plupart des secteurs sont dépendants aux aides de l'État, c'est un scandale absolu. Puis MaPrimeRénov', je vois pas pourquoi l'État paierait pour les rénovations. Quand on a une voiture qu'on doit la rénover, faire des travaux et tout, l'État n'aide pas, et tant mieux.
Mmh.
Et en plus, pour les logements à la location, le logement destiné à la location, il y a des crédits d'impôt qui sont accordés pour la rénovation énergétique. Donc,
ouais. Ça se double, ça fait trop.
Oui, et puis en plus dans le bâtiment, malheureusement, le black dans le bâtiment, c'est aussi connu que le trafic de stupéfiants dans les cités, donc à un moment donné, on stoppe, quoi.
Non, ce qui est vrai, Julien, c'est qu'une des raisons... Alors là, elle va être à nouveau suspendue pour des raisons budgétaires, pour des raisons de procédure budgétaire, parce qu'il n'y a pas de budget. Mais la dernière fois que ça avait été suspendu, c'était aussi parce qu'effectivement, il y avait trop de triches.
Mais c'est ça. Et en plus, on a 3300 milliards de dettes, comme vous l'avez dit. C'est juste pas possible, quoi.
L'argent
par les fenêtres.
La question, vous vous la posez aujourd'hui parce que vous avez l'impression de payer trop d'impôts? Est-ce que c'est aussi ça, quand même?
Mais moi, je paye des impôts comme tout le monde, mais à un moment donné, on peut pas jeter de l'argent par les fenêtres pour aider les uns les autres alors qu'il n'y a pas besoin.
C'est le cas de le dire par les fenêtres, puisqu'on
achète une maison, on achète des appartements, on l'assume, quoi.
C'est notamment, effectivement, pour payer les fenêtres et le toit et l'isolation. Merci beaucoup, Julien, d'être passé par le 32-16. Courage avec la pluie, effectivement, dans le sud. Il est 8h15 sur RMC. Et dans un instant, on va se détendre avec Arnaud Demanche à 8h30. Ensuite, il y aura l'invité du face-à-face, le rapporteur général du budget, justement. Enfin, du budget, il n'y a pas de budget. C'est Philippe Juvin qui répondra à mes questions. Puisqu'il n'y a pas de budget, il y aura à la place une loi spéciale. Tout ça pour ça, on revient quasiment à la case départ et à la même case que l'an dernier. Alors, quelles conséquences très concrètes sur notre vie, sur le fonctionnement du pays? Toutes les questions à Philippe Juvin. Donc, à 8h30, comment sortir de l'impasse? Il aura, j'espère, un début de réponse. Et puis, juste après, il y aura le meilleur de Nicolas Canclou. Ça, ce sera à 8h50. À tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
C'est tous les jours de manche, même s'il a pris quelques jours. Et on le pardonne, il reviendra avec nous à la rentrée en pleine forme. Donc, on retrouve tout de suite le meilleur d'Arnaud de manche. Et c'est Arnaud Demanche qui nous rejoint. Salut Arnaud.
Hello you. Yeah. Bonjour à tous, bonjour les amis. C'est la dernière semaine avant Noël, celle où on prépare les cadeaux. Les enfants attendent avec impatience le Père Noël, ce monsieur farceur, âgé et barbu qui rentre chez vous en pleine nuit parce qu'il aime vos enfants. Oh, hein, il rentre dans la chambre des petits, il les regarde dormir, non, tellement attendri. Puis il dépose des jouets sous un conifère mort décoré par une mère de famille en burn-out. Voilà, c'est la tradition.
Rien,
mais non,
rien.
Mais je suis désolé, c'est comme ça, quoi. Tu sais que les enfants peuvent même téléphoner au Père Noël. Moi, jamais mon gamin, il fait ça. Jamais il appelle un vieux au téléphone qui lui dit « T'as été mignon cette année ?» Tu sais, je te regarde souvent de là où je suis. En plus, ça coûte 3 euros la minute. Il a trouvé une bonne combine, Gabriel Matzneff.
Hein. Oh non.
Théo Tim, tu aimes les films avec des gladiateurs? On va raccrocher, monsieur.
Après les conditions de travail des employés chez Shein, plusieurs reportages ont dévoilé les conditions de travail dans des centres de cyber-arnaque. En Birmanie.
Oui, c'est affreux, hein. Donc les employés sont battus, sont enfermés 18 heures par jour là-dedans. Vous savez qu'en Égypte, on fouettait les esclaves pour construire des pyramides. Et bien là, c'est pour créer des faux profils de Brad Pitt pour escroquer des Marie-Josiane à Clermont-Ferrand qui sont divorcées depuis 12 ans. Et alors, non seulement ils doivent se faire passer pour Brad Pitt, mais en plus, Brad Pitt a été anobli. Maintenant, c'est un prince du Nigeria.
Ah oui.
Et comme il a la double nationalité et que les fonds de son héritage sont bloqués à la banque et qu'il a crevé sur le chemin, Marie-Josiane doit lui envoyer 100 000 euros via Western Union et une bombe anti-crevaison, etc. Et ta mère, elle gobe ça. Après, Macron nous a fait gober qu'il allait relancer notre économie et il nous a pris des sous aussi. Donc, c'est on est une victime de ce genre de truc. Ça se trouve, Macron est birman. Non, mais ceci dit, des escrocs qui arrivent à ramasser 800 000 euros tous les 15 jours, faut les mettre au gouvernement. On devrait déguiser nos ministres en Brad Pitt et les faire correspondre avec des vieilles allemandes. Elles seraient là. Ah, Gunther, Brad Pitt vit à Paris et il a absolument besoin d'argent. Et schling, un petit remboursement de la dette. C'est comme ça qu'on avance.
Ah oui, franchement, il devrait vous...
Il devrait...
Ah oui,
des idées.
Il devrait vous suivre. La publicité Intermarché mettant en scène un loup végétarien qui se fait des amis est un succès.
Bah oui.
Pas mal.
Je fais un peu comme vous.
Les gens me connaissent.
Tout le monde fond pour ce loup qui devient végétarien pour avoir des amis, alors que tout le monde sait que les végétariens n'ont pas d'amis. Mathieu Béliard. Mathieu Béliard en sait quelque chose. Hein?
Mathieu, merci de m'avoir invité à dîner, mais en fait, je mange pas de génocide de bœuf, en fait.
Mais j'ai fait un tataki de bœuf en basse température au fer de jus oxydé et gel translucide de terroir bovin. Ça m'a pris 7 heures et j'ai dû le faire avec Thomas Pesquet, tellement c'est compliqué. Alors tout le monde sait que les loups ne sont pas végétariens en plus. Ils mangent les mers grands. Hein?
Oui.
François Bayrou le disait, si les meutes de loups n'avaient pas été éradiquées en France, ils auraient pu bouffer nos grands-mères et il y aurait moins d'enculés de boomers et de retraites à payer. Donc, réintroduisons les loups dans les centres-villes avec des vieux comme à Nice ou à Cannes.
Voilà, bien sûr.
Alors, un jeune loup qui fait tout pour être inoffensif et populaire, bon, bah, Bardella va déposer une plainte pour plagiat. Et tout ça va relancer la mode des pubs de Noël.
Oui.
D'orage, un miracle se produisit au pied du sapin. Une poupée devint vivante.
Oh mon Dieu, c'est merveilleux! Je suis en vie! Je sens l'odeur du sapin! Je peux marcher! Je suis devenue une vraie petite fille! C'est le miracle de Noël!
Je la sens pas bien cette blague.
Oh, ma poupée chine qui parle! Théotime, il faut que je te laisse! Ma petite fille, t'as été sage cette année?
Ce court-métrage féerique vous a été présenté par le BHV. Le BHV, trois lettres pour le plus beau des Noëls. Allez, profitez bien de la magie de Noël!
Quel bonheur immense d'avoir Arnaud Demanche dans nos vies. Allez, c'est l'heure de jouer et de gagner
RMC vous offre un fabuleux Noël.
Oh, mais oui, c'est l'heure. C'est l'heure de jouer et de gagner. Antoine, on va vous couvrir de cadeaux. Bonjour Antoine.
Bonjour Apolline.
Antoine, félicitations, c'est vous qui avez gagné. Vous êtes gérant d'une société de nettoyage en Haute-Garonne. Alors, on y va Antoine?
Allez,
donc,
on est chaud.
On est le 22. Attention, j'ouvre le petit casier de l'avant. On y va. Antoine, vous avez remporté. Ah là là, j'ai envie de partir avec vous. Vous avez remporté un séjour de 8 jours, 7 nuits, en formule tout compris pour 2 adultes, 2 enfants dans le village club du soleil, mer ou montagne, d'une valeur de 2500 euros.
Bravo!
Félicitations Antoine!
Je suis très content. Il y a les petits avec moi dans la voiture, là, on est content. C'est
Antoine, ça y est, c'est les vacances. Village club du soleil. Félicitations Antoine!
C'est top.
Êtes en route vers le boulot là ou en route pour les vacances?
Je les dépose chez Nounou et je vais travailler là.
Ah, vous les déposez chez Nounou? Et ben d'ailleurs, vous pouvez commencer à leur dire que un jour vous les emmènerez en vacances là, surtout. Grâce à RMC.
Je vais leur dire. C'est gentil. J'en profite pour embrasser ma compagne Marion.
Eh ben on l'embrasse Marion. Marion et Antoine, les vacances vont être très très jolies et on est très heureux. Félicitations à vous et merci d'écouter RMC. Il est 8h24.
Merci.
Et il n'y a pas de budget. Voilà, il n'y a pas de budget pour Noël. Est-ce que c'est grave, docteur? Je poserai la question dans un instant. Parce qu'en plus, il est vraiment docteur. C'est Philippe Juvin qui est non seulement le rapporteur du budget, mais vous savez, c'est lui qui est le patron des urgences de l'hôpital Pompidou parallèlement. Il n'y a donc pas de budget. Il y aura une loi spéciale. Qu'est-ce que ça change? Les conséquences extrêmement concrètes dans notre vie. Les réponses donc de Philippe Juvin dans un instant sur RMC et BFM TV. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Solène Gardré.
Le gouvernement présente ce soir une loi spéciale en Conseil des ministres pour assurer la continuité du financement public, faute de budget adopté pour 2026. Mais Hélène Terzian, l'objectif du Premier ministre, c'est bien d'adopter un budget le mois prochain.
Oui, c'est le message martelé par la ministre du Budget. Amélie de Montchalin appelle à ne pas se contenter d'un service minimum. Ce service minimum, c'est cette loi spéciale qui sera présentée ce soir en Conseil des ministres avant d'être votée par les deux chambres. Une rustine qui permet de ne pas paralyser l'État. Mais pour que la France se dote d'un vrai budget, comme le dit la ministre, avant la fin janvier, il faut un compromis. Et elle prévient, y compris avec quelques hausses d'impôts. Députés et sénateurs n'ayant pas réussi à se mettre d'accord, le Premier ministre reprend la main en consultant les forces politiques hier, les chefs parlementaires du bloc central, aujourd'hui la droite, les socialistes, les écologistes. Parviendront-ils à un consensus? Pour l'instant, l'exécutif renonce toujours à utiliser le 49-3 réclamé par des ténors du bloc central et de la droite.
Un porte-avions nouvelle génération pour la France et pour remplacer le mythique Charles de Gaulle, annoncé hier soir d'Emmanuel Macron à Abu Dhabi. Ce porte-avions à propulsion nucléaire est indispensable selon le général Jérôme Pélistrandi.
Si la France avait renoncé à donner un successeur au Charles de Gaulle, je vais prendre une expression sportive, hein, c'est comme si on passait de Ligue 1 en Ligue 2 au niveau mondial. Il y a 40 ans d'évolution par rapport au porte-avions Charles de Gaulle. Ça sera un navire beaucoup plus moderne. Il va mettre en œuvre des avions, mais il va mettre aussi en œuvre des drones, des capacités qui n'existent pas actuellement sur le Charles de Gaulle. En prenant cette décision, la France garantit d'avoir des capacités d'action pour les décennies à venir et de pouvoir projeter sa force si nécessaire.
Des routes inondées ce matin dans l'Hérault où le fleuve a débordé. Il fait partie des 6 départements toujours en vigilance orange aujourd'hui pour crues et pluies, inondations avec l'Ardèche, la Lozère et le Var. L'Aveyron et le Tarn sont également en vigilance pour neige et verglas. À Moscou, un général de l'état-major russe tué ce matin dans une explosion de voiture. La piste des services spéciaux ukrainiens est étudiée selon le comité d'enquête russe. 3 jours avant Noël, les agriculteurs toujours mobilisés sur les routes dans le sud de la France. Une vingtaine d'actions recensées hier, mais sans impact sur le trafic. Sur l'A63 près de Bordeaux, l'A64 entre Toulouse et Bayonne ou encore l'A75 en Lozère. Des passagers menacent de porter plainte contre Air France après l'atterrissage en urgence de leur avion pour Ajaccio ce week-end. Des flammes seraient apparues sur une des ailes de cet Airbus A320 qui a dû atterrir à Lyon en urgence après une demi-heure de vol. En Australie, une semaine après l'attentat antisémite qui a fait 15 morts à Sydney, on en sait plus sur le parcours des tireurs. Les deux hommes se seraient entraînés en Australie avant l'attaque et auraient fait des repérages sur la plage de Bondi. Attention, si vous avez des virements à faire cette semaine, le système de paiement européen ferme entre le 25 et le 28 décembre pour une mise à jour des systèmes. Les virements bancaires entre deux banques différentes seront bloqués sur cette période. Première journée de la CAN hier, la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc a vaincu les Comores 2-0. Aujourd'hui, début des rencontres à 15h avec Mali, Zambie. Puis dans la soirée, l'Afrique du Sud affronte l'Angola et l'Égypte le Zimbabwe. En Coupe de France, l'Olympique Lyonnais s'est qualifié hier pour les 16e de finale. 3-0 contre Saint-Cyr, équipe de 6e division. Victoire aussi en rugby, cette fois de l'UBB qui a vaincu Toulon 46-7 en clôture de la 12e journée du top 14 et prend ainsi la 3e place du championnat. Et enfin, en badminton, exploit hier de Christo Popov qui devient le premier français à remporter les World Tour Finals, l'équivalent du master de tennis en badminton.
Dans un instant, mon invité, c'est Philippe Juvin, le député LR, mais surtout rapporteur général du budget. Sauf qu'il n'y a pas de budget.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Philippe Juvin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous travaillez en ce moment jour et nuit. Mais finalement, il n'y aura donc pas de budget à Noël. Pas de budget, mais une loi spéciale. Je vous interroge tout de suite sur ses conséquences. Vous êtes député LR des Hauts-de-Seine et vous êtes le rapporteur général du budget. Vous avez par ailleurs une autre casquette qui est d'être chef du service des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou. On vous avait beaucoup connu aussi au moment du Covid. J'en profiterai pour vous poser quelques questions quand même sur l'état de la grippe. Mais il n'y aura pas de budget. Il n'y aura pas de budget à Noël. Il y aura une loi spéciale. Elle devrait être présentée dès ce soir. Elle devrait vous être présentée d'ailleurs. Est-ce que c'est grave, docteur ?
Alors non, ce n'est pas grave, c'est ce qui s'était passé l'année dernière. Comment ça va se passer ? Ben vous savez que le budget 2025 prend fin par définition le 31 décembre 2025. Donc c'est pour ça que 1er janvier 2026, il fallait un budget 2026. Comme il n'y a pas de budget voté, eh bien nous allons voter une loi spéciale qui va permettre de faire la jonction entre le 1er janvier 2026 et le jour où le budget sera voté, parce qu'un budget évidemment sera voté en 2026. J'espère que ça sera dans les premiers jours.
Quand vous dites évidemment, ça veut dire que vous vous dites de toute façon on en aura un.
On en aura forcément un parce qu'on peut pas rester un an sous l'empire d'une loi spéciale, qui est une loi minimale, qui permet que, par exemple, vous puissiez payer la TVA quand vous allez acheter un bien, mais ça ne permet pas, par exemple, de faire des investissements.
Alors moi, je voudrais quand même comprendre, ça fait un mois et demi que vous êtes à l'Assemblée, dans les commissions, dans les débats, qu'ensuite ça repart au Sénat, qu'ensuite il y a... Et tout ça s'est arrêté, ça a duré quasiment à peine plus de 10 minutes en commission mixte paritaire. C'est comme si les plombs avaient sauté, c'est-à-dire que tout s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Pourquoi ça a bloqué, qu'est-ce qu'on va devenir, est-ce que tout repart à zéro, voilà. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça a bloqué ?
Alors d'abord, il faut que je vous rappelle un peu d'histoire. Depuis 2012, nous sommes en 2026, en 14 ans, il y a eu deux fois simplement où la CMP a été conclusive. C'est-à-dire ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la règle.
C'est pas à la dernière minute et donc on se retrouve pas préparé.
Sauf que d'habitude, l'année dernière exceptée, sauf que d'habitude, effectivement, on a devant nous un peu plus de temps pour reprendre le texte avant la date fatidique du 31 décembre. Faut bien comprendre que la date fatidique du 31 décembre. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a justement manqué du temps. Il y a deux dates qu'il faut avoir en tête, institutionnelles. C'est un peu compliqué, mais vous me posez des questions.
Non, mais prenons le temps parce que je pense que pour les Français, tout ça, c'est ce qui fait que à la fin, ils paieront plus ou moins d'impôts, qu'ils auront un fonctionnement de l'État plus ou moins fluide.
Absolument. Pour des raisons institutionnelles, nous devions absolument remettre notre copie de la CMP si elle avait été conclusive ce week-end pour pouvoir voter le budget avant le 23 décembre minuit, c'est-à-dire demain soir. Et nous avons été pris par le temps. Pourquoi ? Parce que le budget, ça a été notre grand ennemi, le temps, a été déposé deux semaines en retard au début du processus. Changement de Premier ministre, mise en place du nouveau gouvernement, patati patata. On a eu le budget deux semaines en retard au début, on paye les deux semaines de retard. Ça, c'est le premier sujet. C'est pour ça qu'on n'y est pas arrivé. Vous m'auriez donné 5-6 jours de plus, on bouclait l'affaire, j'avais un quasi-accord chez les députés, y compris en embarquant les socialistes, qui était nécessaire pour éviter une motion de censure. Je vous refais pas le badge, vous connaissez le truc par cœur.
Ouais. Mais y compris avec les deux bouts de la chaîne, j'allais dire, c'est-à-dire du côté LR et du côté PS.
C'est ça, voilà. Ouais. C'était un accord du bloc central, LR, Horizon, PR, etc., MoDem, et les socialistes étaient d'accord, non pas pour voter, il faut pas exagérer, mais pour avoir une attitude amicale mâle taiseuse, vous voyez. On avait un deal. Ça passait. Et puis, ça passait à l'Assemblée. Modulo, et je dois être honnête avec vous, modulo des éléments techniques qui étaient complexes à mettre en œuvre. Pourquoi? J'avais, par exemple, demandé, pour trouver les quelques milliards qui manquaient sur la fin, qu'on baisse la dépense publique. C'est-à-dire que on avait décidé, on s'était mis d'accord pour prendre la dépense publique et dire, on va la baisser de 1,8 à 2%.
En enlevant par
un rabot, justement.
Un rabot partout?
Partout.
2% de moins sur tous les
procédés. Exactement.
Surtout.
Sauf le poste de la Défense nationale, pour des raisons que vous savez, et sauf évidemment le paiement de la dette qui, elle, vous pouvez pas baisser, de toute façon, vous payez... Et c'est là où on a voulu faire les choses intelligemment, c'est justement de ne pas le faire partout et de le faire différencier selon les postes. Et ça demandait 4-5 jours pour se mettre d'accord, c'est ce qui nous a manqué.
Est-ce que c'est fichu?
Non.
Ou est-ce qu'on peut repartir de ça en janvier?
Alors, moi, c'est tout mon but. Mon but, c'est quoi? C'est de faire en sorte que début janvier, on arrive devant l'Assemblée. Il faut savoir que à partir du moment où il n'y a pas eu d'accord en CMP, le texte de référence devient le texte voté au Sénat lundi dernier.
Celui-là, à mon avis, vous n'aurez pas franchement l'accord sympathique du PS. Si.
D'abord, c'est là-dessus qu'on travaillait en CMP. On travaillait sur ce texte-là. Modulo, je fais un excursus. Le texte du Sénat a été voté lundi dernier. Souvenez-vous, il y a une semaine. Et nous devions nous mettre d'accord à partir de ce texte en le modifiant le vendredi. Donc, vous voyez, la question de temps, là, c'était quand même facile. Donc, on va prendre ce texte. Et moi, ma thèse, ça, c'est ce que je vais défendre tout à l'heure à Matignon, puisqu'on est reçu.
Vous êtes reçu tout à l'heure à Matignon. Vous recevez aussi ce soir en commission la ministre du budget et le ministre de l'économie. Vous allez effectivement analyser avec eux pour espérer voter cette fameuse loi spéciale demain.
La loi spéciale, elle va être votée parce que les gens sont raisonnables, ils voient bien qu'il va bien falloir que le pays continue à fonctionner. Donc l'inquiétude n'est pas là. Non, la question c'est, à partir du 1er janvier, qu'est-ce qui se passe? Moi, mon souhait, c'est qu'on prenne le texte du Sénat, puisque de toute façon, c'est le seul texte qui existe. Nous l'amendons de manière collective. Moi, je vais arriver avec ma liste, avec ma grande feuille, avec mon tableur Excel tout à l'heure devant le Premier ministre en disant, voilà, en commission mixte paritaire, les forces politiques s'étaient mises d'accord sur ça, ça, ça et ça. Voilà ce qu'il faut retirer, voilà ce qu'on aimerait remettre. Le Premier ministre en fait sa copie, j'espère qu'il prendra nos demandes, et il pourrait dire à l'Assemblée, mais c'est sa responsabilité, sur cette base, je fais un 49-3, j'engage la responsabilité du gouvernement.
Voilà, ce que vous espérez, vous, et vous venez de lâcher le mot, c'est le 49-3.
Absolument.
Vous dites, en fait, sans 49-3, on est reparti pour des galères, on n'est pas sûr d'en avoir
non,
un.
Non, on n'est pas reparti pour des galères, on est reparti pour un débat qui va durer quelques semaines. Moi, je pense que ça y est, le débat, on l'a eu. On sait où sont les positions. Oui. Et il faut, voilà. C'était normal qu'il y ait un débat. Oui, les gens disent, ouais, il y a des débats, les gens sont pas d'accord. Oui, oui, ça s'appelle la démocratie. Tant mieux, hein. Si vous voulez pas de débat et que tout le monde soit d'accord automatiquement, il y a la Corée du Nord, c'est très bien, tout le monde est d'accord, vous verrez ça.
Oh, il y avait peut-être une petite marge entre la Corée du Nord et ce qu'on vient de vivre, non?
Écoutez, non. Je vais vous dire, je pense que les débats, c'est toujours intéressant et vif. C'est vif. C'est toujours intéressant parce que ça met aussi la transparence sur ce que pensent réellement les gens. Moi, j'aime bien quand les gens se découvrent et dans un débat, vous vous découvrez. Moi, par exemple, je suis très opposé à une taxe qu'on a qualifiée de holding, qui était une taxe absolument folle sur la trésorerie des PME. Je pense que ça aurait affecté le tissu des PME. Le débat, ça a permis également de dire que la priorité, enfin d'affirmer pour moi que la priorité des priorités, s'il n'y en avait qu'une à garder, ça serait de réduire le déficit, qui est actuellement de 5,3 du PIB, sous 5.
Voilà. Sous 5? Est-ce qu'il sera vraiment sous 5?
C'est le but. Si c'est pas sous 5, Madame de Malherbe, je pense que c'est un échec. Nous devons être... En tout cas, sous 5. En tout cas, pas plus que 5. Pas plus que
5.0. Il sera à 5.
Ce qui serait formidable.
Il devait être au départ en dessous de 5.
Oui, mais aujourd'hui, il est à 5,3. Pour que les Français comprennent, pour passer de 5,3 à 5, il faut 9 milliards. 0,1, c'est égal à 3 milliards. Donc, il faut que nous trouvions à minima 9 milliards. Et ces 9 milliards, il faut les trouver intelligemment. Plus sur les dépenses que sur les recettes. C'est-à-dire qu'il faut baisser les dépenses.
Vous avez dit, Philippe Juvin, je vais venir tout à l'heure à Matignon avec mon tableau Excel pour pouvoir trouver un texte qui soit un texte qui, certes, passe par le 49-3, mais qui soit, en gros, adopté à peu près par tout le monde et un texte de compromis. Il faut se mettre d'accord, dites-vous, sur des grands principes. Quelques grands principes. Lesquels?
Premièrement, je répète, diminuer l'endettement. 5,3
okay.
À 5 minimum. Si vous n'avez pas ça, honnêtement, la discussion devient très futile. Parce que c'est là-dessus qu'on nous sommes jugés. Il y a un objectif en 2029 d'être sous 3%. Donc si on, voilà. Deuxième point, ensuite, pour équilibrer un budget, soit vous augmentez les recettes, ça c'est les impôts et les taxes, soit vous baissez les dépenses. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est modérer l'envie fiscale. Il y a des impôts qui sont dans le projet initial que je ne souhaite pas, que je trouve moi, bah par exemple cette taxe holding qui est une taxe sur les
Sur la trésorerie des PME, dites-vous.
Bah, le Premier ministre pourrait tout à fait décider de la remettre. Donc ça va faire l'objet d'une discussion. Mais c'est vrai qu'elle a été votée en même terme, cette disparition de cette taxe holding par le Sénat et l'Assemblée nationale. Il paraîtrait illogique que le Premier ministre la reprenne. Et puis, il y a l'autre façon, c'est de baisser les dépenses. Il faut probablement faire les deux. L'année dernière, le budget qui a été réalisé, c'était un budget, malheureusement, 2025, avec uniquement des augmentations de recettes, c'est-à-dire de taxes et impôts, et pas de baisse de dépenses. Je pense que cette année, nous devons affirmer que nous voulons baisser la dépense publique.
Combien coûte la loi spéciale? C'est-à-dire que l'an dernier, par exemple, la loi spéciale de début 2025, Amélie de Montchalin estime que ça a coûté près de 12 milliards d'euros à l'économie française. C'est vrai ça ou pas?
Non, je crois pas.
Ou en fait, c'est une façon de dramatiser?
Alors, ça a été probablement l'année dernière une façon de dramatiser. En réalité, quand vous demandez des explications, où trouvez-vous les 12 milliards? Moi, j'avoue, je les trouve pas. Je pense que les gens mélangent deux choses.
Est-ce qu'il y a du bluff dans cette histoire?
Non, mais chacun.
Est-ce que chacun n'est pas en train d'essayer de gonfler les chiffres pour angoisser son camp?
Alors, d'abord, je pense que c'est une très mauvaise idée d'angoisser le camp, parce qu'il n'y a pas de raison d'être angoissé. Encore une fois, si on a un budget dans 15 jours, honnêtement, ça ne change absolument rien à l'économie du pays. Non, je pense que les gens mélangent les effets d'une loi spéciale, et qui, je vous rappelle, l'année dernière avait duré plus de 2 mois. On est quand même sur une autre chose. Sur le fait que l'année dernière, on n'avait plus de Premier ministre. Sur le fait que l'année dernière, dans la même, on n'avait pas de PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Alors que là,
on a un Premier ministre et un financement de la sécurité sociale. Les gens mélangent tout parce que, probablement, qu'ils mettre dans leurs 12 milliards le prix de l'instabilité entre guillemets politique qui probablement a un coût vu de l'extérieur, et nous n'avons pas cette situation cette année. C'est pour ça que c'est pas tout à fait comparable, voyez.
Donc ça n'est pas comparable aujourd'hui. En tout cas, vous n'avez pas d'estimation de ce que ça coûte,
en tout cas,
2 semaines de loi spéciale.
Non, mais en tout cas, je pense que ça ne coûte pas grand-chose. Si nous avons un budget, je le répète un peu, si nous parvenons à avoir un budget dans les 15 premiers jours de janvier, c'est ça l'objectif.
Alors vous pensiez, vous, que ça allait passer? C'est-à-dire que, quand même, vous le dites, on a perdu 15 jours, mais dès le début.
Ah non, mais
donc,
dès le début,
c'était anticipable.
Moi, dès le début, j'appelais d'ailleurs le Premier ministre à utiliser le 49.3 dès rapidement. Il a voulu, écoutez, d'abord, s'il avait pas dit « je ne fais pas de 49.3 », il aurait été censuré dès le mois d'octobre. Donc, je comprends pourquoi il l'a dit, je vais pas lui reprocher. Sauf qu'encore une fois, les 15 jours que nous avons perdu au début, eh bien, nous en aurions besoin aujourd'hui. D'ailleurs, comme par hasard, vous allez laisser passer les vacances, et j'espère que dans les 15 jours, on aura un budget. Donc, vous retrouvez les 15 jours qui nous ont manqué en octobre, là, en fait.
Ce fameux 49.3, est-ce que vous avez des arguments pour que le Premier ministre, en effet, finisse par l'utiliser là où il ne l'a pas fait à l'instant?
Les arguments, tout le monde les connaît, c'est que il y a deux possibilités désormais. Soit il met sur la table un 49.3 à partir d'un texte, parce que la question c'est quel texte on met au 49.3, c'est-à-dire le texte du Sénat avec des amendements, et ça il faut qu'on se mette d'accord rapidement là-dessus, et dans ces cas-là le truc est réglé en quelques jours, on a un budget. Il ne fait pas ça, dans ces cas-là on relance une discussion budgétaire, discussion en commission, discussion dans l'hémicycle, on réouvre les débats sur la tax holding, sur des choses qui plaisent beaucoup à des gens parfois un peu excités au plan fiscal. Bon, on va reperdre du temps, vous voyez.
C'est qui les gens excités?
Regardez ce qui s'est passé en première lecture. On a inventé des tas de taxes inapplicables pour plusieurs dizaines de milliards d'euros. On savait qu'elles seraient pas applicables, mais ça fait peur à tout le monde. La France est championne du monde de la fiscalité, donc c'est peut-être pas la peine d'essayer de battre nos propres record, voyez.
Honnêtement, est-ce que les socialistes pourraient être d'accord avec cette utilisation du 49.3?
Bah, en privé, ils le sont. En privé, ils n'arrêtent pas de dire oui, j'espère que vous allez faire le 49.3. François Hollande, d'ailleurs, chez vous, je crois,
oui,
a dit, il y a une quinzaine de jours, qu'il était d'accord. Alors, François Hollande, c'est pas tout le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, il est divers, comme tous les partis, d'ailleurs. Mais oui, je pense qu'en fait, il le souhaite. Pourquoi? Parce que le Parti Socialiste, au fond, même s'ils ont des affichages parfois un peu olé-olé, quand ils nous ont demandé la semaine dernière, ils sont venus me voir en me disant « nous voulons 10 milliards de dépenses en plus », je leur ai dit « écoutez les gars, vous rêvez, c'est pas possible, au contraire, nous on va vous baisser la dépense », ils souhaitent la stabilité, ce sont des gens responsables. Donc je pense que le Parti Socialiste sera d'accord pour un 49.3, il faut simplement les traiter, regarder leurs
demandes. Ils vous le disent, mais ils osent pas
le dire. En privé,
mais,
oui, bien sûr.
Mais ils ne peuvent pas assumer cette position.
Alors,
publiquement.
La plupart le disent, il faut que je sois honnête, certains ne me l'ont jamais dit, en particulier Olivier Faure, le patron du groupe.
Olivier Faure ne vous a jamais dit, jamais, en privé comme
jamais,
en public,
jamais.
Mais OK pour le 49.
Jamais. Mais d'autres qui ont un rôle important au Parti Socialiste, en particulier dans la construction du budget,
vous pensez à Boris Vallaud ?
Bien sûr, je pense à d'autres députés qui le diront publiquement,
s'ils
le souhaiteront.
Donc vous ne voulez non, pas outer pas, en quelque sorte Boris Vallaud.
Moi je suis rapporteur général du budget, je mets autour de la table des gens qui pensent un peu différemment, j'essaye de faire en sorte que ça se passe bien, je vais pas commencer.
En tout cas, ils auront tous intérêt effectivement à ce que ce budget passe.
Les socialistes sont des gens responsables.
Vous en avez eu la preuve pendant tous ces
débats. Ils sont venus me voir en me disant nous voulons 10 milliards de dépenses en plus, quand je leur ai dit c'est pas possible, on va au contraire faire des dépenses en moins, ils ont dit bon, comment on fait?
OK, ils avaient tenté le coup quoi.
Oui, bien sûr. Hein.
Philippe Juvin, il y a des conséquences très concrètes. Il y en a une en particulier qui a l'air d'effrayer le bâtiment. C'est qu'au 1er janvier, puisqu'il n'y a pas de budget, il n'y aura pas de guichet, MaPrimeRénov. Ah oui, je vous vois lever les yeux.
Non, mais
au
c'est
ciel.
Pas ça. C'est
ça pousse des cris d'orfraie.
Oui, parce que tout le monde pense que c'est une catastrophe, cette loi spéciale. Pas du tout. On aura un budget dans les 15 jours. Je m'explique sur MaPrimeRénov. En fait, vous savez que MaPrimeRénov, elle n'est pas versée par l'État, elle est versée par l'ANA, une agence. L'ANA, il se trouve qu'ils ont de la trésorerie. Donc, s'il faut attendre 15 jours, eh bien, écoutez, les dossiers seront un peu ralentis pendant 15 jours.
Mais ça veut pas dire que pendant 15 jours, on peut pas déposer de dossier.
Mais bien sûr que non. On déposera des dossiers, ils seront instruits 15 jours plus tard. Qu'est-ce que ça change? C'est quoi le délai aujourd'hui pour faire instruire un dossier de l'ANA?
Oui, envie de vous dire, c'est très compliqué quand même, ces fameux dossiers. On a des témoignages tous les jours sur le fait que c'est le parcours du combattant.
Donc ça ne changera rien.
Mais dans un sens, au fond, ça pose une autre question, Philippe Juvin, qui est la question de la dépense publique et des subventions à un certain nombre de secteurs. Ce matin, j'étais quand même frappée. J'ai eu effectivement sur RMC un des représentants de toutes ces entreprises du bâtiment qui disait c'est une catastrophe, c'est un enfer pour nous, c'est l'horreur si ça se suspend. Et j'ai eu un certain nombre d'auditeurs qui appelaient et qui disaient non mais attendez, c'est quoi cette dépendance désormais d'un certain nombre de secteurs à la dépense publique? Est-ce qu'on n'a pas créé les conditions d'un certain nombre de secteurs qui jusqu'à présent étaient des secteurs qui fonctionnaient avec l'offre et la demande, qui dépendent entièrement désormais d'une sorte de subvention? On est presque sous perfusion d'un certain nombre de secteurs.
Ah, pas entièrement, mais vous avez raison, des tas, des pans entiers de l'économie, d'organismes publics, mais aussi privés, attendent des subventions, des machins, des trucs. Et c'est un vrai sujet. Il y a eu un travail fait par le Sénat qu'on appelle sur les aides aux entreprises, entre guillemets. Et en fait, l'économie française est dopée à la dépense publique. Et c'est un des problèmes que j'ai eu quand j'ai négocié ce budget. C'est que j'avais à ma porte une file de gens, organismes publics comme organismes privés, qui venaient me dire surtout ne touchez pas à ça.
En fait, à chaque fois que vous les dépensez moins, vous avez derrière quelqu'un qui dit ah non, pas question qu'on arrête.
Non, c'est pire que ça. C'est oui, vous avez raison, monsieur Juvin, de baisser la dépense publique. Vous avez vraiment raison. Toutefois, moi, c'est pas possible. Et y compris des gens très haut placés, avec des responsabilités éminentes dans la République, qui dirigent des institutions publiques très importantes en matière de dépenses publiques, vous explique que c'est très bien de vouloir baisser la dépense publique, continuer. En revanche, moi, les 2 millions ou les 3 millions que vous allez me retirer, vous comprenez, c'est pas possible.
Vous parliez à l'instant de ces agences, l'agence par exemple qui verse MaPrimeRénov.
Ouais.
Est-ce qu'il y a effectivement un problème dans ces agences? Est-ce qu'il faut réduire le nombre d'agences? Est-ce qu'il faut en réduire le budget?
Moi, j'avais fait une proposition dans l'hémicycle qui était la suivante. Article 36 du budget, pour ceux qui voudront aller voir, ça s'appelle les taxes affectées. Il y a des organismes qui reçoivent le produit de taxes. Eh bien, j'avais dit, c'est très simple. On va plafonner tout le monde et on va les plafonner au niveau de ce qu'elles ont reçu en 2025. Vous voyez ? C'est bon. Si on vous dit votre budget, vous êtes président d'une association de boulis ou de football, et on vous dit votre budget de 2026, ça sera celui de 2025, débrouillez-vous avec, c'est pas la mort. C'est ce que je leur ai demandé de faire. Ça ferait 1,2 milliard d'économies. Le ciel m'est tombé sur la tête et tout le monde est venu pleurnicher, bien entendu. Mais si on ne fait pas ça, madame de Valère, je vous dis, on n'y arrivera pas. Il faut que nous apprenions la frugalité dans le public, comme dans le privé, la frugalité. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas améliorer les règles, faire en sorte qu'il y ait moins de règles, qu'elles soient plus simples. Mais la frugalité, c'est quelque chose.
Et il y a la question, en plus de la concurrence parfois déloyale, et notamment, on a beaucoup parlé de Chine, un mot là-dessus, la suspension finalement n'a pas été actée. J'avais entendu, Philippe Juvin, qu'au début de ce débat sur les petits colis, vous aviez carrément dit, allons-y. Oui. Mais allons-y franco, c'est-à-dire n'y allons pas avec une taxe de 3 euros sur les petits colis, allons-y avec une taxe de 50 euros. Bref, bloquez vraiment les choses. Pourquoi vous n'avez pas obtenu gain?
moi,
cause.
Il faut taper sur Shine. Je n'ai pas obtenu gain de cause parce que c'est moi-même qui ai retiré l'amendement. Pourquoi? Parce qu'il était probablement mal rédigé. Il avait un effet pervers. C'est-à-dire que si brutalement vous faites une taxe à 50 sur le petit colis, qu'est-ce qui va se passer? Le colis va atterrir non pas à Roissy, mais il va atterrir à Liège.
Voilà. Et ensuite, comme et ça, hop, il n'arrivera pas de Chine, ouais. Et comme il n'arrivera pas de Chine, on
trouve, plus. Il faut qu'on trouve le bon outil, probablement c'est sur la TVA, mais il faut avoir le temps de le travailler. Et c'est tout ce que je vous disais tout à l'heure. Pour taper Shine, mon ennemi c'est le temps, il faut que j'ai le temps pour faire une bonne loi.
Un dernier mot, Philippe Juin, est que votre autre casquette, chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, certes vous avez été suspendu pendant 2 mois de cette charge-là.
Je n'ai pas été suspendu. J'ai moi-même pris une disponibilité, attention.
Oui, mais disons qu'en tout cas pendant 2 mois, votre priorité évidemment, oui. Vous étiez obligé de consacrer votre temps, revenons encore à la question du temps, à l'analyse du budget, mais vous serez à nouveau de garde, je crois, à l'hôpital, notamment la nuit du réveillon. La grippe est-elle effectivement grave et quels sont les derniers conseils que vous pouvez donner à ceux qui vont se retrouver en famille?
Alors, j'ai vu les courbes et je vais faire un saut à l'hôpital juste après. Le nombre monte à toute vitesse et d'après ce que me disent mes collègues réanimateurs, les cas sont assez cognés. Donc il est encore temps, très largement temps, d'aller se faire vacciner. Faites-vous vacciner. Il semble que le vaccin soit plutôt efficace cette année, plus efficace que les années.
On a encore le temps de se faire vacciner, vacciner aujourd'hui pour
des fêtes. Oui. Au contraire, allez-y vite.
Allez vous faire vacciner. Merci beaucoup Philippe Juvin, donc rapporteur général du budget, député LR des Hauts-de-Seine. Et en gros, ce qu'on retient comme message, c'est que c'est pas si grave, docteur.
À condition que nous ayons une loi votée dans les 15 jours de janvier.
Dans les 15 jours de janvier, et on a bien compris que vous plaidiez pour un 49-3 qui rende les choses plus efficaces et plus immédiate. Merci à vous. Il est 8h52 et vous êtes bien sur RMC BFM TV.
RMC, Apolline Matin.
8h50, face à Canteloup.
Le meilleur de Nicolas Canteloup, c'est tout de suite Nicolas qui revenait avec l'ancien président François Hollande sur son successeur à l'Élysée.
On commence à me regretter. On était bien du temps où les problèmes, c'était juste le bulletin scolaire de la petite Leonarda.
Vous êtes mesquin, monsieur Hollande.
Mais quand je pense que j'étais à 4% d'opinion favorable, juste parce que j'ai porter une pauvre chapka et que j'ai livré des croissants à ma meuf. Et lui, il est toujours à 17%, alors qu'il a, disons-le, ruiné le pays.
Oui, enfin, monsieur Hollande, c'est quand même vous qui avez lancé Emmanuel Macron en politique. C'est vous qui en avez fait un ministre. Et en économie, en plus.
Oui, mais il faut replacer dans le contexte. Je l'ai nommé à l'économie comme on prend un stagiaire. Mais vous avez voulu en faire, vous, un président. C'est votre faute. C'est vous qui l'avez élu, pas moi. Parce que moi, je m'en souviens très bien. J'avais voté pour quelqu'un d'autre.
Pour quelqu'un d'autre, monsieur Hollande. Merci. Jean-Michel Apathy est là pour nous aider à y voir clair. Votre avis, Jean-Michel?
Écoutez, ma chère Apolline, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. On a quoi? On a une dissolution ratée, et des européennes manquées, des gouvernements renversés à répétition. Emmanuel Macron n'a pas 3 défaites à son actif, il en a 4, 5, 6. C'est plus un président, c'est le football club de Metz. C'est que des branlés. C'est Richard Gasquet à Roland Garros.
Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Merci. Merci de m'inviter, chère Apolline. Ça me fait quelque chose de se revenir dans ce studio historique des RMC. Et oui, c'est ici que j'ai fait tomber, souvenez-vous, Jérôme Cahuzac. C'est ici que j'ai humilié tant de ministres en leur demandant le prix d'un ticket de métro ou d'une baguette en les piégeant. Écoutez, j'ai un service, une faveur plus exactement à vous demander, chère Apolline.
Ah, mais écoutez, allez-y, Jean-Jacques.
Est-ce que vous m'autorisez à reprendre une dernière fois un auditeur en ligne, comme à la grande époque?
Écoutez,
oui,
allez-y.
Oui, oui. Merci. Merci. Eh bien, écoutez, c'est parti. C'est parti. Attention, on me fait passer une fiche. Alors, il s'agirait de René.
Oui, c'est
bonjour,
René.
Bonjour, René. Vous êtes chauffeur de taxi à Paris. Il me semble que je vous ai déjà eu. Bonjour, René.
Oh putain, j'ai Jacques. J'y crois pas. Tu m'as manqué. Franchement, j'ai Jacques. Ça me fait quelque chose. J'ai les larmes aux yeux, là, j'ai Jacques.
Mais moi aussi, mon cher René. Ça fait plaisir. Vous écoutez toujours RMC, René.
RMC, ben écoute, franchement, ça doit quelque part, franchement, je te parle franchement, hein, c'est quand même plus pareil, ça, ben, ça manque quand même de testostérone. Mm. Ben, ils ont mis que des bonnes femmes à l'antenne, hein, ben, Apolline Malherbe, Estelle Denis, Jérôme Rotten.
René, allons, Jérôme Rotten, ce n'est pas une femme, René.
Ouais. Enfin, il faut le dire vite, ça se voit que tu l'as pas vu jouer quand tu étais au PSG. Hein. Non. Mais en fait, je te dis franchement, moi j'écoute régulièrement et j'aime bien quand même cette radio parce qu'il y en a pour tout le monde, tu vois, il y a RMC, t'as les grandes gueules sur RMC et les petites bites sur France Inter. Non.
Merci René.
Merci Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain à 8h50 et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG avec Olivier Truchot. Bonjour Olivier, quel est le menu ?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les grandes gueules se préparent, elles vont débattre de l'actualité pendant 3 heures à partir de 9h sur RMC, RMC Story. Avec autour de la table aujourd'hui Joël Dagossiri, Emmanuel Devilliers, Charles Consigny et puis le ministre chargé du commerce et des PME, Monsieur Serge Papin, qui sera face aux GG. À tout à l'heure.